Bonjour à tous, Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Short Stories. Je vais encore vous raconter, lire une nouvelle de l'auteur Roald Dahl, dont les parents étaient d'origine norvégienne. Lui est né au Pays de Galles. C'est un auteur qui nous a quittés en 1990. Je vous avais déjà raconté une nouvelle qui était un beau dimanche. Et bien cette fois-ci, c'est Madame Bixby et le manteau du colonel. L'Amérique est le paradis des femmes. Déjà, elle règne sur 85% des biens de la nation, en attendant les 15% qui restent. Le divorce est devenu un passe-temps lucratif, simple à exercer, facile à oublier. Les femelles, selon le degré de leur ambition, peuvent le répéter aussi souvent qu'elles le désirent et entrer ainsi en possession de sommes astronomiques. Une autre bonne affaire, c'est la mort du mari. Certaines dames préfèrent cette méthode-là. Elles savent que la période d'attente ne se prolongera pas trop. Le surmenage et l'hypertension s'associent généralement pour retirer le pauvre diable de la circulation avant terme. Il expirera à son bureau, un flacon de benzédrine dans une main, une boîte de tranquillisant dans l'autre. Ces terrifiantes perspectives sont loin de décourager les jeunes générations. Plus le taux de divorce augmente, plus les jeunes gens s'y exposent. Ils se marient comme des rats, avant même d'être pubères. Et pour la plupart, à 35 ans, ils ont déjà deux ex-femmes à leur compte. Pour entretenir convenablement ces dames, les ex-époux travaillent comme des forçats, ce qui est bien naturel, car réflexion faite, que sont-ils d'autre? Mais, à l'approche d'un âge mûr précoce, ils voient la désillusion et l'angoisse s'installer dans leur cœur. Alors, quand la nuit tombe, ils se réfugient par petits groupes, dans des clubs et dans des bars. Là, ils sirotent leur whisky, ils avalent leurs pilules, tout en se racontant des histoires aussi réconfortantes que possible. Le thème fondamental de ces histoires est toujours le même. Les personnages aussi sont les mêmes. Il y en a trois. Le mari, la femme et le sale type. Le mari est obligatoirement un honnête homme qui travaille dur et dont l'existence est sans mystère. La femme, elle est perfide, menteuse, lascive. Elle passe invariablement son temps à brouiller les cartes en compagnie du sale type. Et le mari est trop bon pour même aller jusqu'à la soupçonner. Découvrira-t-il jamais la chose? Sera-t-il cocu à perpétuité? Oui, on le dirait, mais attention! Tout à coup, par une brillante et astucieuse manœuvre, le mari bouleverse les projets de sa monstrueuse épouse. Celle-ci est désarmée, humiliée, vaincue. Alors, autour du bar, l'assistance mâle vengée sourit dans sa barbe. Beaucoup d'histoires de ce genre circulent ainsi, merveilleux récits sortis directement de l'imagination de quelques mâles infortunés. Pour la plupart, ces histoires sont trop niaises pour être répétées ou bien trop scabreuses pour être imprimées. L'une d'elles, pourtant, semble valoir mieux que les autres, d'autant qu'elle a le mérite d'être vraie. Elle jouit d'une grande popularité auprès des hommes avides de réconfort, et si vous en êtes, et si vous ne la connaissez pas encore, vous l'apprécierez peut-être. Cette histoire s'appelle « Madame Bixby et le manteau du colonel » et elle relate à peu près ceci. Le docteur et Madame Bixby vivaient dans un tout petit appartement quelque part à New York. Le docteur Bixby était un dentiste aux revenus modestes. Madame Bixby était une forte femme. Une fois par mois, toujours un vendredi après-midi, Madame Bixby prenait le train à la gare de Pennsylvanie pour Baltimore. Elle allait voir sa vieille tante. Elle y passait la nuit et rentrait à New York le lendemain avant l'heure du dîner. Le docteur Bixby ne s'opposait nullement à cette habitude. Il savait que Tante Maud vivait à Baltimore et que sa femme était très attachée à la vieille dame. Il eût été absurde de les priver toutes les deux du plaisir de cette rencontre mensuelle. « À condition que vous ne me demandiez jamais de vous accompagner », avait dit au commencement le docteur Bixby. « Bien sûr que non, mon chéri », avait répondu Madame Bixby. « Après tout, ce n'est pas votre tante, c'est la mienne. » Donc, tout était pour le mieux. Comme nous allons le voir pourtant, la vieille tante était un peu plus qu'un alibi commode pour Madame Bixby. Le sale type, sous la forme d'un monsieur connu sous le nom du colonel, se dissimulait sournoisement derrière toute cette mise en scène. et notre héroïne passait à Baltimore le plus clair de son temps en compagnie de cet individu. Le colonel était fabuleusement riche. Il vivait dans une ravissante maison aux environs de la ville. Ni femme, ni enfant, rien que quelques discrets et loyaux serviteurs. Et lorsque Madame Bixby était absente, il se consolait en montant à cheval et en chassant le renard. Voilà des années que durait cette euphorique liaison entre Madame Bixby et le colonel. Ils se voyaient si rarement, 12 fois par an, c'est bien peu si on y réfléchit, qu'ils ne risquaient pratiquement pas de s'ennuyer ensemble ou de se disputer. Au contraire, la longue attente entre leurs rencontres ne faisait qu'accroître leur tendresse. « Taillot !» criait le colonel chaque fois qu'il venait la chercher à la gare dans sa belle voiture. « Ma chère, j'avais presque oublié combien vous étiez belle. » 8 années passèrent ainsi. C'était avant Noël. Madame Bixby attendait à la gare de Baltimore le train qui allait la ramener à New York. La visite qui venait de s'achever avait été tout particulièrement agréable et elle était d'humeur joyeuse. Mais c'était toujours pareil. La compagnie du colonel lui inspirait toujours ces sentiments-là. Cet homme avait le don de lui faire croire qu'elle était la plus remarquable des femmes, qu'elle possédait un charme subtil et exotique et qu'elle était la fascination même. Et comme il était différent de son dentiste de mari, pour qui elle avait l'impression de n'être que l'éternelle cliente installée dans la salle d'attente, silencieuse devant les piles de magazines, rarement sinon jamais admise à l'intérieur pour se soumettre aux petits gestes précis de ses petites mains propres et roses. « Le colonel me charge de vous remettre ceci », fit une voix derrière elle. Elle se retourna et aperçut Wilkins, le groom du colonel, un nain ratatiné à la peau grise. Il poussa dans ses bras un grand carton plat. « Mon Dieu !» s'écria-t-elle tout émue. « Quelle énorme boîte ! Qu'est-ce que c'est, Wilkins ? Y a-t-il un message ?»« Pas de message, » dit le groom. Puis il partit. Dès qu'elle fut dans le train, Madame Bixby porta la boîte là où il y avait écrit « Dame ». Elle ferma la porte, tira le verrou. Comme c'était passionnant, un cadeau de Noël du colonel ! Elle se mit à défaire la ficelle. « Je parie que c'est une robe, » se dit-elle tout haut. « Peut-être même 2 robes. » Ou bien toute une parure de fine lingerie. Je ne garderai pas. J'y toucherai un peu pour deviner ce que c'est. J'essaierai aussi de deviner la couleur. Et puis le prix. Elle ferma les yeux et souleva lentement le couvercle. Puis elle plongea une main dans la boîte. Il y avait du papier de soie qui bruissait sous ses doigts. Il y avait aussi une enveloppe, ou peut-être une carte. Elle passa outre pour fouiller sous le papier. Ses doigts s'y enfoncèrent comme des vrilles. « Mon Dieu !» s'écria-t-elle soudain. « Ce n'est pas possible !» Elle ouvrit de grands yeux sur le manteau. Puis elle se jeta dessus, le tira de la boîte. De grosses vagues de fourrure se frottaient contre le papier de soie. Et lorsqu'elle le souleva pour le voir dans toute sa longueur, il était si beau qu'elle en eut le souffle coupé. Elle n'avait jamais vu un vison aussi superbe, car c'était bien du vison. Il n'y avait pas d'erreur. La fourrure était presque noire. Elle crut d'abord qu'elle l'était vraiment, mais plus près de la lumière, elle avait des reflets bleus, d'un bleu riche et profond, comme du cobalt. Elle regarda vite l'étiquette, qui disait en toute simplicité « Vison sauvage du Labrador ». Mais rien n'indiquait l'endroit où le manteau avait été acheté, rien. C'était certainement l'œuvre du colonel. Ce vieux renard n'avait pas voulu laisser de traces, c'était bien son droit. Mais combien avait-il bien pu le payer ? Elle osait à peine y penser. 4, 5, 6 000 $ ? Peut-être plus ? Elle ne parvenait pas à le quitter des yeux, et pour les mêmes raisons, elle ne put résister à l'envie de l'essayer. Elle fit tomber rapidement son vieux manteau rouge. Elle était tout essoufflée et ses yeux étaient tout ronds. Pouvoir toucher cette fourrure, mon Dieu ! Ces belles manches aux épais revers ! Qui donc lui avait expliqué une fois que les peaux de femelles servaient toujours à faire les manches et des peaux de mâles pour le reste du manteau ? Quelqu'un ? John Redfield, sans doute. Mais comment John pouvait-elle savoir ce qu'était un vison ? Le grand manteau noir l'enveloppait comme une seconde peau. Oh, quelle étrange sensation ! Elle se regarda dans le miroir. Toute sa personnalité avait miraculeusement changé. Elle était éblouissante, rayonnante, riche, fière. Tout cela en même temps. Et cette impression de puissance qu'il lui donnait. Dans ce manteau, elle pourrait aller où elle voudrait. Tout le monde lui ferait des courbettes. C'était trop beau, vraiment. Madame Bixby prit l'enveloppe qui était encore dans la boîte. Elle l'ouvrit et en sortit la lettre du colonel. « Vous m'avez dit un jour que vous aimiez le vison, alors je vous en offre un. On me dit qu'il est beau. Je vous demande de l'accepter avec mes vœux les plus sincères, comme cadeau d'adieu. Car pour des raisons qui me sont personnelles, je ne pourrai plus vous revoir. Adieu donc et bonne chance. Eh bien, voilà du propre. Juste au moment où elle se sentait si heureuse. Plus de colonel. Quel choc affreux. Il allait lui manquer énormément. D'un geste lent, Madame Bixby caressa la douce fourrure noire. C'était toujours cela de gagner. Elle sourit, plia la lettre dans l'intention de la déchirer et de la jeter par la fenêtre. Mais en la pliant, elle vit quelques mots écrits au revers. Post-Christum. Dites que votre gentille et généreuse tante vous l'a offert pour Noël. La bouche de Madame Bixby, toute souriante encore, voilà une seconde, se pinça soudain. « Il est fou !» s'écria-t-elle. « Tante Maud n'a pas de fortune. Elle ne pourrait jamais m'offrir une chose pareille. Mais qui alors ?» Oh, grand Dieu, dans son émotion, elle avait complètement oublié de résoudre ce problème. Dans 2 heures, elle serait à New York. 10 minutes plus tard, elle serait chez elle face à son mari. Et même un homme comme Cyril, tout enfermé qu'il était dans son petit monde maussade et visqueux de racines, de caries et d'abcès, poserait quelques questions en voyant sa femme, retour d'un week-end, faire son entrée triomphale, vêtue d'un manteau de vison à 6 000 $. On dirait, pensa-t-elle, on dirait que ce maudit colonel l'a fait exprès, rien que pour me torturer. Il sait parfaitement que Tante Maud est pauvre. Il sait que je ne pourrai pas le garder. Mais Madame Bixby ne pouvait supporter l'idée de s'en séparer. « J'ai droit à ce manteau, » dit-elle tout haut. « J'ai droit à ce manteau. »« Bien, ma chère, tu auras ce manteau. Mais ne perds pas la tête, reste tranquille et réfléchis. Tu es une fille débrouillarde. Ce n'est pas la première fois que tu te pètes sa tête. Il n'a jamais été capable de voir plus loin que le bout de son stylet, tu le sais bien. Alors du calme, rien n'est perdu encore. » 2 heures plus tard, Madame Bixby descendit du train à la gare de Pennsylvanie et se hâta vers la sortie. Elle avait remis son vieux manteau rouge et elle portait le carton sous le bras. Elle appela un taxi. « Chauffeur, dit-elle, vous connaissez peut-être un prêteur sur gage encore ouvert dans les environs. »« Il y en a plein le long de la 6e avenue, répondit-il. » « Alors, arrêtez au premier que vous voyez, s'il vous plaît. » Elle monta dans le taxi qui démarra. Peu après, il s'arrêta devant une boutique où étaient suspendues 3 boules de cuivre. « Voulez-vous m'attendre ? » dit Madame Bixby au chauffeur. Elle quitta le taxi pour entrer dans la boutique. Un énorme chat était accroupi sur le comptoir. Il mangeait des têtes de poisson dans une soucoupe. L'animal leva sur Madame Bixby ses yeux d'un jaune étincelant, puis il les baissa et se remit à manger. Madame Bixby se tenait près du comptoir, aussi loin que possible du chat. En attendant que quelqu'un arrive, elle regardait les montres, les boucles de chaussures, les broches d'émail, les vieilles lunettes, les jumelles cassées, les dentiers. « Pourquoi prête-t-il toujours sur les dents ?» se demanda-t-elle. « Oui, » fit le propriétaire en émergeant d'un coin sombre, au fond du magasin. « Oh, bonsoir, » dit Madame Bixby. Elle se mit à dénouer la ficelle du paquet. L'homme s'approcha du chat et lui caressa le dos. Le chat continuait à manger. « C'est idiot, » dit Madame Bixby, « j'ai perdu mon porte-monnaie, et comme nous sommes samedi, les banques sont fermées, et il me faudrait de l'argent pour le week-end. C'est un manteau de grande valeur, mais je n'en demande pas beaucoup, j'aimerais simplement de l'argent pour 2 jours, jusqu'à lundi, alors je viendrai le dégager. » L'homme attendit sans rien dire, mais lorsqu'elle eut sorti le manteau et permis à la belle fourrure de se déployer sur le comptoir, ses sourcils se soulevèrent, il quitta le chat et s'approcha pour voir. « Si seulement j'avais une montre sur moi, ou une bague, je vous l'aurais donnée, mais il se trouve que je n'ai sur moi que ce manteau. » Elle étendit les doigts pour qu'il puisse les voir. « Il a l'air neuf, » remarqua l'homme en caressant la douce fourrure. « Oh oui, il est neuf. Et comme je vous l'ai dit, je veux tout juste emprunter assez pour me tirer d'affaire jusqu'à lundi. Que diriez-vous de 50 $ ?»« D'accord pour 50 $. Il vaut 100 fois plus, mais je sais que vous en prendrez soin jusqu'à lundi. » L'homme prit dans un tiroir un ticket qui ressemblait à ceux qu'on attache à la poignée d'une valise. La même taille, le même papier raide et brunâtre. Mais il était perforé au milieu de manière à pouvoir être partagé en deux, et les deux moitiés étaient identiques. « Quel nom ? » demanda-t-il. « Laissez tomber. » Elle vit l'homme hésiter et le bec de la plume osciller au-dessus de la ligne des pointillés. « Vous n'êtes pas obligé de mettre le nom et l'adresse, n'est-ce pas ? » L'homme haussa les épaules. Puis il secoua la tête et la plume descendit jusqu'à la ligne suivante. « C'est que je préfère que vous ne le mettiez pas, » dit Madame Bixby, « pour des raisons strictement personnelles. » « Alors il vaut mieux que vous ne perdiez pas ce ticket. »« Je ne le perdrai pas. » »« Parce que si quelqu'un le trouvait, il pourrait venir réclamer l'article. »« Oui, je le sais. » »« Rien que sur le numéro. » »« Oui, je sais. » »« Que voulez-vous que je mette comme description ? Pas de description non plus. Ce n'est pas nécessaire. Mettez juste la somme que vous me prêtez. » De nouveau, la plume hésita sur la ligne qui suivait le mot « article ». « Il vaudrait mieux mettre une description. Ça peut vous aider si des fois vous voulez vendre le ticket, on ne sait jamais. »« Je ne veux pas le vendre. » »« Vous pourriez être obligé, ça arrive souvent. » »« Écoutez, dit Madame Bixby, je ne suis pas fauchée, si c'est ce que vous voulez dire. J'ai simplement perdu mon porte-monnaie, vous comprenez ?»« Bon, faites comme vous voudrez, dit l'homme. C'est votre manteau, après tout. » À ce moment, une idée déplaisante vint à Madame Bixby. « Dites-moi, fit-elle, si je n'ai pas de description sur mon ticket, comment puis-je être sûre que vous me rendrez ce manteau et pas autre chose quand je reviendrai ?»« On l'inscrit dans le livre. Mais je n'ai que ce numéro, vous pourriez me rendre n'importe quelle vieille loque. Voulez-vous une description, oui ou non ?» demanda l'homme. « Non, dit-elle, je vous fais confiance. » L'homme inscrivit 50 $, après le mot « valeur », sur les deux parties du ticket, puis il les sépara, en suivant le pointillé, et posa la moitié sur le comptoir. Il sortit son portefeuille, en retira 5 billets de 10 $. « L'intérêt est de 3% par mois, dit-il. « Très bien, merci. Vous en prendrez bien soin, n'est-ce pas ?» L'homme acquiesça en silence. « Voulez-vous que je le remette dans le carton ?»« Non, dit l'homme. » Madame Bixby sortit de la boutique. Dans la rue, le taxi l'attendait. 10 minutes plus tard, elle était chez elle. « Chérie, fit-elle en se penchant pour embrasser son mari, je t'ai manqué ?» Cyril Bixby laissa tomber le journal et regarda sa montre bracelet. « Il est 6h26, dit-il, tu es en retard. »« Je sais, ces trains sont terribles. Tante Maud t'envoie ses amitiés, comme toujours. Je meurs de soif, et toi ?» Le mari plia le journal en rectangle précis et le posa sur le bras du fauteuil. Puis il se leva pour se diriger vers le buffet. Sa femme se tenait toujours au milieu de la pièce. Occupée à ôter ses gants, elle le surveillait du coin de l'œil en se demandant combien de temps il mettrait. Il lui tournait maintenant le dos, penché pour doser le gin, scrutant le doseur comme si c'était la bouche d'un patient. Comme il paraissait petit après le colonel. Le colonel était gigantesque et velu, et une vague odeur de réfort émanait de sa personne, tandis que celui-ci, il était petit, glabre, maigrelet, et il ne sentait rien. Tout au plus les pastilles à la menthe qu'il suçait à longueur de journée pour avoir la laine fraîche. « Regarde ce que j'ai acheté pour doser le vermouth, dit-il en désignant un verre gradué. Je peux doser à 1 mg près. »« Quelle bonne idée, chérie !»« Il faut absolument que je le pousse à changer la façon dont il s'habille, se dit-elle. Ses vêtements sont ridicules. » Il y avait eu un temps où elle les trouvait merveilleux, où elle admirait ses vestons édouardiens qui avaient 6 boutons et des revers montants, mais à présent, il lui paraissait absurde. Ainsi que ses pantalons en tuyaux de pipe. Il lui fallut, pour pouvoir porter des vêtements de ce genre, une toute autre tête que celle de Cyril. Son visage lui était long et osseux, avec un nez mince et une mâchoire proéminente. Et, en voyant sortir tout cet attirail de ses vêtements étroits et démodés, on pensait à une caricature de Sam Weller. Lui se prenait sans doute pour le beau Brummel. À son cabinet, il accueillait ses clientes, la blouse blanche non boutonnée, pour qu'ils puissent admirer sa mascarade. C'était probablement pour donner l'impression qu'il était quelqu'un. Mais Madame Bixby, elle, savait que tout ce plumage n'était que de la poudre aux yeux. Il lui rappelait un vieux paon qui fait la roue au milieu d'une pelouse alors qu'il a perdu la moitié de ses plumes. « Merci chérie, dit-elle. » Elle prit le martini, s'assit sur le sofa, son sac sur les genoux. « Qu'as-tu fait hier soir ?»« Je suis restée à mon cabinet, j'ai fait quelques moulages, puis j'ai fait des comptes. » « Sérieusement, Cyril, écoute, je crois qu'il est grand temps de laisser à d'autres ce travail idiot. » Par ta situation, tu es bien supérieur à ce genre de choses. Pourquoi ne donnes-tu pas les moulages à ton mécanicien ? J'aime mieux les faire moi-même. Je suis très fière de mes moulages. Je le sais, chérie, je les trouve merveilleux. Ce sont les plus beaux moulages du monde. Mais je ne veux pas que tu travailles trop. Et pourquoi cette demoiselle Pultenay ne fait-elle pas les comptes ? C'est son travail, non ? Mais elle les fait. Mais il faut d'abord que j'établisse les prix. Elle ne connaît pas les conditions matérielles de mes malades. Ce martini est excellent, dit Madame Bixby en posant son verre sur la table. Vraiment. Elle ouvrit son sac et en tira un mouchoir comme pour se moucher. « Oh, regarde !» s'écria-t-elle en voyant le ticket. « J'allais oublier de te montrer ce que j'ai trouvé dans le taxi. Il y a un numéro. Ce pourrait être une sorte de billet de loterie ou quelque chose de ce genre, alors je l'ai gardé. » Elle tendit à son mari le petit bout de carton brun. Il le prit entre ses doigts et l'examina minutieusement sous tous les angles comme une dent suspecte. « Tu sais ce que c'est » fit-il. « Non, mon cher, qu'est-ce que c'est ? un ticket de prêt sur gage. Un quoi ? Un ticket de prêteur. Voici le nom et l'adresse de la boutique, c'est sur la 6e avenue. Dommage, je suis déçue. J'espérais que c'était un ticket pour la loterie irlandaise. Tu n'as aucune raison d'être déçue, dit Cyril Bixby. Au contraire, cela promet d'être plutôt amusant. Amusant pourquoi, chérie ? Et il se mit à lui expliquer exactement comment fonctionnait un ticket de prêt, en insistant tout particulièrement sur le fait que quiconque se trouvait en possession d'un ticket était habilité à réclamer l'objet déposé. Elle l'écouta patiemment jusqu'au bout. « Et tu crois que ça vaut la peine de le réclamer » demanda-t-elle. « Cela vaut toujours la peine de savoir ce que c'est. Tu vois ce qu'il y a marqué dessus, 50 $. Tu sais ce que ça veut dire ?»« Non, mon cher, qu'est-ce que ça veut dire ?»« Ça veut dire que l'objet en question a de fortes chances d'être quelque chose de grande valeur. »« Tu veux dire qu'il vaudrait 50 $ ?»« Peut-être plus de 500. »« 500 ? » ?»« Tu ne comprends donc pas, un prêteur sur gage ne donne jamais plus de 10% pour la valeur réelle de la chose. Ma foi, je l'ignorais. Il y a beaucoup de choses que tu ignores, ma chère. Maintenant, écoute, puisqu'il n'y a ni nom ni adresse du titulaire, et il faut sûrement prouver d'une façon ou d'une autre que la chose m'appartient. Rien du tout. Les gens font cela souvent. Ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont allés chez un prêteur sur gage. Ils en ont honte. Alors, tu crois que nous pouvons le garder ? Naturellement. Il est à nous maintenant. Tu veux dire à moi, dit fermement Madame Bixby, c'est moi qui l'ai trouvé. Ma chère enfant, quelle importance ! L'important, c'est de pouvoir aller le chercher pour 50 $ seulement, qu'en penses-tu ? Comme c'est drôle, s'écria-t-elle, et comme c'est passionnant de ne même pas savoir ce que c'est. Ça pourrait être n'importe quoi, n'est-ce pas ? N'importe quoi ? Mais oui, bien sûr, mais selon toute vraisemblance, ça sera une bague ou une montre. Alors, si c'était un véritable trésor, ce serait merveilleux. Je veux dire, quelque chose de vraiment ancien, un vase antique, par exemple, ou une statue romaine. Je n'ai aucune idée de ce que ce sera. Nous verrons bien. Je trouve ça absolument fascinant. Donne-moi le ticket. J'irai le chercher lundi matin. Je crois qu'il vaut mieux que j'y aille, moi. Oh non, s'écria-t-elle. C'est moi. Eh bien non. J'irai le chercher en allant à mon cabinet. Mais c'est mon ticket. Laisse-moi faire, Cyril. J'aimerais tant m'amuser. Tu ne connais pas ces prêteurs sur gage, ma chère. Tu serais capable de te laisser rouler. Mais non, sûrement pas. Donne-le, s'il te plaît. « Il faudrait aussi que tu aies les 50 $, dit-il en souriant. « Sans ça, on ne te remettra pas l'objet. »« Je les ai, dit-elle. Enfin, je crois. « Je préférerais que tu ne t'occupes pas de ça, si ça t'ennuie pas. »« Mais Cyril, c'est moi qui l'ai trouvé. C'est à moi d'y aller, voilà qui est juste. »« Naturellement que le ticket est à toi. C'est vraiment pas la peine de faire tant d'histoires. »« Je ne fais pas d'histoire, je suis un peu émue, voilà tout. »« Et tu n'as certainement pas pensé que cela pourrait être quelque chose de typiquement masculin. » Une montre de poche, par exemple, ou une paire de boutons de manchette. Il n'y a pas que les femmes pour aller chez les prêteurs sur gage. « Dans ce cas, je t'en ferai cadeau pour Noël, » dit Madame Bixby avec magnanimité. « J'en serai enchantée. Mais si c'est un objet pour femme, je le veux pour moi, d'accord ?»« Cela me paraît très juste. Pourquoi ne verrais-tu pas avec moi quand j'irai le chercher ?» Madame Bixby fut sur le point de dire oui, mais elle se retint juste à temps. Elle ne désirait nullement être accueillie comme une habituée par le prêteur en présence de son mari. « Non, dit-elle, je ne crois pas. Tu sais, ce sera encore plus passionnant si je reste à la maison à t'attendre. Oh, j'espère que ce ne sera pas un truc sans intérêt. »« Tu soulèves là une question importante, dit-il. Si l'objet ne vaut pas les 50 $, je ne le prendrai même pas. »« Mais tu disais qu'il en vaudrait 500. »« C'est certain, ne t'en fais pas. »« Oh, Cyril, je suis si impatient, c'est passionnant, n'est-ce pas ?»« C'est amusant, fit-il en glissant le ticket dans la poche de son gilet. Il n'y a pas de doute. » Le lundi matin, après le petit déjeuner, Madame Bixby accompagna son mari à la porte et l'aida à mettre son pardessus. « Ne travaille pas trop, chérie, dit-elle. « Non. Tu rentres à 6 h, je l'espère. Auras-tu le temps d'aller chez le prêteur sur gage ?»« Ah, je n'y pensais plus. J'y vais maintenant, c'est sur mon chemin. »« Tu n'as pas perdu le ticket ?»« J'espère que non, dit-il en tâtant la poche de son gilet. »« Non, il est là. Tu as assez d'argent ?»« Juste ce qu'il faut. » »« Mon chéri, dit-elle en s'approchant plus près de lui pour lui redresser la cravate, qui d'ailleurs était parfaitement droite. « Si c'est quelque chose de beau, quelque chose qui me ferait plaisir, me téléphoneras-tu dès que tu seras à ton cabinet ?»« Si tu veux. Tu sais, au fond, j'aimerais bien que ce soit quelque chose pour toi, Cyril. Je le préférerais. »« C'est très généreux de ta part, ma chère. Mais maintenant, il faut que je me dépêche. » Au bout d'une heure environ, le téléphone sonna. Madame Bixby fut si rapide qu'elle décrocha l'écouteur avant même la fin de la première sonnerie. « Ça y est, dit-il. » « Tu l'as ? Oh, Cyril, qu'est-ce que c'est bien ? C'est fantastique. Attends, tu verras, tu vas t'évanouir. Chérie, qu'est-ce que c'est? Dis-le-moi vite. Tu es une veinarde, voilà ce que tu es. Alors c'est pour moi? Bien sûr que c'est pour toi. Mais comment a-t-on pu mettre en gage une chose pareille pour 50 dollars seulement? Je n'y comprends vraiment rien, ils sont fous ces gens. Cyril, arrête de me tenir en haleine, je n'en peux plus. Tu deviendras folle en voyant la chose. Mais qu'est-ce que c'est? Essaie de deviner. Madame Bixby freina. Attention, se dit-elle, c'est le moment de ne pas aller trop vite. Un collier, dit-elle? Faux. Un solitaire? Tu ne brûles même pas, je vais te faciliter les choses, c'est plutôt vestimentaire. Que veux-tu dire? Un chapeau? Ce n'est pas un chapeau, dit-il en riant. Oh, Cyril, dis-le-moi, je t'en conjure. Non, non, je veux te faire une surprise, tu le verras ce soir à la maison. Tu ne feras pas ça, s'écria-t-elle, je vais te rejoindre tout de suite. Je préfère que tu ne viennes pas. Ne sois pas stupide, chérie, pourquoi pas? Parce que j'ai trop à faire. Tu vas bousculer tout mon programme de ce matin, j'ai déjà une demi-heure de retard. Alors je passerai à l'heure du déjeuner. Je ne déjeunerai même pas. Et puis bon, viens à 1h30, je mangerai un sandwich, au revoir. À 1h30 exactement, Madame Bixby sonna au cabinet du docteur. Celui-ci, dans sa blouse blanche de dentiste, vint lui ouvrir la porte. « Oh, Cyril, je suis si impatiente !»« Il y a de quoi? Tu as de la veine, le sais-tu ?» Et il la précéda dans le couloir, puis au bureau. « Allez déjeuner, mademoiselle Pultenay, » dit-il à son assistante, occupée à déposer avec zèle les instruments dans le stérilisateur. « Vous terminerez cela en revenant. » Il attendit que la jeune femme partît. Puis il se dirigea vers le placard et s'arrêta. « La chose est là, » dit-il. « Et maintenant, ferme les yeux. » Madame Bixby s'exécuta. Elle retint sa respiration et dans le silence qui suivit, elle entendit s'ouvrir la porte du placard. Puis il y eut le doux froufoutement d'un vêtement qu'on décroche. « Ça y est, tu peux regarder. »« Je n'ose pas, » dit-elle en riant. « Vas-y, fais un effort. » En hésitant, en gloussant, elle entr'ouvrit une paupière juste une seconde, le temps d'apercevoir comme dans un brouillard l'homme à la blouse blanche qui tenait quelque chose en l'air. « Du vison » cria-t-il, « du vrai vison !» Au son de ce mot magique, elle ouvrit aussitôt les yeux et s'avança, prête à recevoir le manteau dans ses bras. Mais il n'y avait pas de manteau. Rien qu'un ridicule petit tour de cou en fourrure qui pendillait à la main de son mari. « Réjouissant tes yeux, » dit-il en le faisant onduler devant son visage. Madame Bixby porta une main à sa bouche et recula. « Je vais me mettre à hurler, » se dit-elle. « Je le sais, je vais me mettre à hurler. Qu'y a-t-il, ma chère? Il ne te plaît pas ?» Il arrêta le mouvement ondulatoire en attendant qu'elle dise quelque chose. « Eh bien, balbutia-t-elle, c'est très joli, vraiment très très joli. Cela coupe le souffle, n'est-ce pas? Oh oui, merveilleuse qualité, » dit-il, « belle couleur. Sais-tu, ma chère, je crois qu'une pièce comme celle-ci te coûterait au moins 2 à 3 000 $ si tu voulais l'acheter en magasin. » « Je n'en doute pas. C'était deux peaux, deux petites peaux avec leurs têtes, des yeux de verre et des petites pattes pendantes. L'une des deux têtes mordait la queue de l'autre. « Voilà, » fit-il, « essayons-le. » Il avança pour lui parer le cou, puis il recula pour mieux l'admirer. « C'est parfait. Cela te va à merveille. Le vison, ce n'est pas pour n'importe qui, ma chère. » « Pas n'importe qui, en effet. » Il vaut mieux ne pas le mettre quand tu feras ton marché, sinon on va te croire millionnaire et te doubler les prix. J'y penserai, Cyril. Je crains que tu ne puisses rien espérer d'autre pour Noël. 50 $, c'est un peu plus que j'allais y consacrer de toute manière. Sur ce, il alla se laver les mains. Maintenant, rentre vite, ma chère, et bon appétit. Je serai bien sortie avec toi, mais j'ai le père Gormand dans ma salle d'attente, avec une dent déplombée. Madame Bixby prit la porte. « Je vais aller tuer ce prêteur à gages, » se dit-elle. « Je cours à sa boutique à l'instant même pour lui jeter cette camelote à la figure. Et s'il ne me rend pas mon manteau, je le tue !»« Je ne t'ai pas dit que je rentrerai tard ce soir ?» demanda Cyril Bixby en se savonnant toujours les menons. « À en juger d'après maintenant, il sera au moins 8h30, 9h peut-être. »« Très bien, ce soir. » Et Madame Bixby sortit en claquant la porte. Au même instant, Mademoiselle Pultenay, la secrétaire assistance, venait à sa rencontre dans le couloir. Elle avait fini de déjeuner. « Quel jour magnifique !» dit Mademoiselle Pultenay dans un sourire éclatant lorsqu'elle la croisa. Elle était suivie d'une traînée de parfums. Sa démarche était ondulante. Et elle avait l'air d'une reine, oui, d'une reine, dans le superbe manteau de vison noir que le colonel avait offert à Madame Bigelby.